L'invité du matin.
Et mon invité ce matin, c'est Alain Thibaudot, le fondateur de Flycopter. Bonjour Alain.
Bonjour Mathieu, bonjour auditeur.
Alors, des voitures volantes, c'est possible dans un futur proche ?
Oui, c'est possible. Toute la technologie est disponible. Par contre, il faut pas penser à une voiture comme on les a maintenant.
Ouais.
C'est un nouveau véhicule, adapté.
Alors, on va parler de votre d'entreprise Flycopter, mais avant peut-être revenir sur votre parcours. Comment on se dit d'un seul coup, allez hop, je vais faire des voitures volantes.
Tout à fait. Alors, à la base, moi, je suis dessinateur mécanique depuis 25 ans.
Donc, d'accord.
Dans l'industrie.
Ouais.
Et ben, il y a 25 ans, je me suis posé la question, qu'est-ce que pouvait apporter mon métier ? Alors, forcément, une des plus grandes avancées, c'est toujours d'améliorer la vie humaine, et donc notamment la mobilité.
Mmh.
Et ben voilà, on sait qu'aujourd'hui, on a des gros problèmes de mobilité dû notamment à la pollution, à l'encombrement des routes. Donc, à l'époque, je me suis attaqué un petit cas concret. Les fameux tail-sitters, ces avions qu'on posait sur l'empennage arrière,
ouais.
Sur la queue, pour les faire décoller verticalement, qui n'était pas du tout pratique puisqu'il fallait monter à 4 mètres de hauteur pour accéder au cockpit et se retrouver au décollage les pieds en l'air. Alors qu'il suffisait, enfin, il suffit simplement de suspendre le cockpit sous le ventre de l'appareil, près du sol, et l'appareil, naturellement, en passant en phase de vol, vous allez vous retrouver, vous resterez toujours assis. Donc c'était le début du concept du petit cardan,
ouais.
qui suspend le cockpit et qui permet de rester à assiette stable, c'est-à-dire que vous déplacez en étant toujours à plat sur la ligne d'horizon.
D'accord.
Ce que pour l'instant, on ne fait pas dans l'aviation, à part sur certains pendulaires ou dirigeables.
Est-ce qu'on est sur la même technologie que l'homme volant, Frankie Zapata ?
Ah, Frankie Zapata est en train effectivement de se rapprocher de notre technologie. Alors d'abord avec sa voiture jet.
Ouais.
Donc, on est un petit peu dans ce genre de technologie, et surtout notamment son dernier véhicule qui est le scooter, donc qui commence à se rapprocher de notre solution, c'est-à-dire c'est des rotors électriques qui permettent de décoller verticalement, et voilà, un cockpit suspendu, le nôtre étant délié de l'appareil, ce qui nous permet d'être très confortable. Et d'avoir encore des performances meilleures.
Alors, je suppose qu'il y a des brevets qui doivent être déposés pour valider vos technologies.
Alors, tout à fait. Pour l'instant, on utilise des protections comme pour les logiciels. Donc,
d'accord.
Ce qu'on appelle les licences créatives communes.
Ouais.
Donc, notamment, on publie tout en NC, non commercial. Il faut avoir un accord avec nous. Ça a l'avantage de nous protéger monde. Et bien sûr, au fur et à mesure des développements, il y aura d'autres brevets déposés en France ou à l'Europe.
Alors, vous avez été primé aussi par le concours Anticipa. Qu'est-ce que vous apporte aujourd'hui la Technopole ?
Alors, la Technopole nous assure un accompagnement. Parce que voilà, on a besoin de communiquer, on a besoin aussi d'un site. Notamment, on va utiliser l'aérodrome de Lannion. Et notamment les compétences du centre technique Drone Ouest, et également travailler avec les entreprises locales, donc notamment par exemple toutes les entreprises du groupe Bretagne Aerospace par exemple.
D'accord. Et pourquoi vous avez fait le choix de Lannion ? Parce que vous n'êtes pas du coin ?
Tout à fait. Alors, c'est notamment par la qualité de l'accompagnement. Anticipa, on a des gens qui nous suivent. Johan Olivier, Estelle Caraval, Alain Le Bouffon, Élodie Bénèque Blanchard. Voilà, on est très bien suivis.
Ouais.
Ce qui est important puisqu'on dépend notamment en partie d'investissements privés et pour le début public pour commencer. Et ce qui est surtout intéressant, c'est d'avoir les équipements de l'aérodrome. Si on veut tester une voiture volante, autant le faire en sécurité
dans une
zone protégée.
Ouais. Plein de questions par rapport à cette voiture volante. Quelle énergie va être utilisée ?
Alors, les propulseurs sont électriques.
D'accord.
Donc, à ce niveau-là, donc il y aura forcément de l'électrique. Mais on prévoit notre usage, en fait, c'est vraiment le même que la voiture électrique, donc du porte-à-porte. Pour l'instant, on n'a pas d'autre alternative que la voiture.
Ouais.
C'est pour ça qu'on parle de voiture volante, même si on n'a pas de roue. Par contre, on veut prolonger l'autonomie. Pour l'instant, en tout électrique, en véhicule volant, on est globalement à 20 minutes, 1 heure d'autonomie.
D'accord.
Le but du jeu, ce serait d'utiliser des générateurs biocarburants qui sont déjà existants.
Ouais.
Biogaz, donc biométhane, bioéthanol, donc des carburants qu'on peut fabriquer localement, qui sont donc biosourcés, qui sont compensés carbone par le carbone capté pendant la croissance des plantes. Et donc, qui permettrait d'augmenter l'autonomie à, par exemple, 2 heures d'autonomie, voire un petit peu plus.
D'accord. Et alors, avec cette autonomie, on peut faire combien de kilomètres ?
Alors, en se basant sur les ULM, généralement, on peut avoir des vitesses de pointe de l'ordre de 200 km/h.
D'accord.
Il faut imaginer que la vitesse de croisière sera plutôt autour de 100 ou un peu plus de 100 km/h.
Ouais.
En ligne droite à vol d'oiseau. Donc on peut imaginer en 2 heures peut-être 400 km d'autonomie.
Ah oui, 400 km, c'est pas mal déjà.
Oui, et puis avec la bicarburation, vous pourrez vous arrêter, changer votre bouteille de gaz et puis repartir quasiment dans la foulée.
Est-ce qu'il faudra un permis pour piloter cet engin ou un brevet, un diplôme ?
Alors, tout à fait. Au début, on l'oriente d'abord sur les pratiquants ULM. Donc, les pilotes d'aviation peuvent obtenir facilement ce brevet de pilotage ULM. Il est aussi accessible puisque c'est entre 1 500 et 2 000 euros. Bon, après, il faut 20 heures de pratique ou 40 pour l'emport de personnes. Donc voilà, c'est aussi accessible qu'un permis de conduire. Et dans un avenir proche, c'est un véhicule semi-autonome. Vous rentrez dans l'appareil, vous appuyez sur le bouton pour le décollage automatique.
Ouais.
Après avoir enregistré votre chemin GPS, votre trajectoire et votre point de destination.
Alors je suppose qu'il y a aussi tout un système de sécurité, parce que si ça tombe en panne quand on est tout en haut.
Tout à fait. Alors on est sur de l'ultra léger, donc on est limité en France en catégorie à 450 kg.
D'accord.
Donc, ce qui est assez pratique dans cette catégorie, puisque 450 kg, on a maintenant des parachutes qui sont capables à la fois et de protéger l'individu et le matériel.
D'accord.
Donc, si vous avez le moindre problème, vous êtes en semi-autonome, vous pouvez à tout moment
déclencher un parachute.
Claquer le bouton d'arrêt d'urgence et vous poser proprement au sol, ou je dirais en sécurité.
Alors la question que tout le monde se pose, bien évidemment, c'est combien ça va coûter ? Quel est le prix de cet engin ?
Alors forcément, les premiers modèles ils vont être un petit peu exclusifs. On prévoit donc 2024-2025 une série de 10 exemplaires. Donc,
ah oui, quand même, déjà ?
Oui, mais ça reste une quantité limitée, donc un coût encore un peu élevé, aux alentours de 200 000 euros l'appareil.
Ouais.
En sachant que on souhaite développer, nous, un biplace. D'abord, pour emmener sa femme, un enfant, une personne malade, c'est quand même beaucoup plus pratique.
Bien sûr. Ouais.
Et surtout, ça ouvre le marché. Alors, tous ceux qui sont déjà pilotes ULM, qui ont certainement une petite entreprise, pourront faire de l'initiation au vol, par exemple du transport de personnes, type taxi aérien, toutes les prestations qu'ils font déjà avec des ULM.
Mais alors, par rapport à toutes les réglementations, je suppose qu'on ne pourra pas décoller de son jardin.
Ah, vous pouvez, hein, il existe 200 aérodromes privés, enfin publics en France, et ouais. Il y a 2000 aérodromes privés, c'est-à-dire que j'ai un copain qui est agriculteur. Il a réservé un champ, il l'a déclaré un aérodrome privé et il pose son petit ULM dans son champ.
D'accord.
C'est ce qu'on appelle les zones non réglementées. Les zones réglementées dans l'aérien étant parfois ce qu'on appelle les zones interdites de survol, ce qui n'est pas tout à fait vrai. C'est les villes, les prisons, les centrales nucléaires, les zones militaires.
Ouais.
Où là, en fait, ce sont des zones réglementées. Il faut déposer un plan de vol, donc demander une autorisation de survol, ce qui paraît tout à fait logique.
Bah oui, bien sûr. Alors du coup, quand est-ce que vous allez faire les premiers essais ?
Alors le démonstrateur est prévu pour l'année prochaine, donc un démonstrateur échelle 1, fonctionnel, biplace.
D'accord.
Donc de classe ULM.
Avec des personnes dedans ?
Oui, le but du jeu, c'est de faire un échelle 1 fonctionnel avec, avec des personnes dedans.
Ok, très bien. Donc là, ça aura lieu donc à Lannion ?
Oui, ce serait génial qu'à Lannion, on ait la première voiture volante biplace ULM au monde.
Parce que ça n'existe pas dans le monde, hein, c'est ce que vous dites.
Alors sur ce concept-là, pas tout à fait, notamment dans les classes ULM. Vous avez des concurrents qui, eux, nécessitent des pilotes aviation ou hélicoptère, je dirais, voilà, qui demandent deux ans de pratique sur des budgets un peu plus lourds. Ce sont les mêmes, quasiment les mêmes pilotes pour un avion de plus de 450 kg que voilà pour les avions privés de ligne ou autres.
Et par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Franky Zapata qui utilise à peu près la même technologie, du coup, lui c'est quoi ? C'est un autre système. On parle de la voiture, mais là, vous parliez tout à l'heure de scooter.
Oui, il l'a appelé scooter, hein, c'est son nom commercial. Lui, il développe, alors il est super, hein, Franky, parce qu'entre guillemets, il...
Vous êtes déjà rencontrés peut-être tous les deux ?
Non, pas encore. Moi, je suis plutôt Bretagne et Ouest. Il est plutôt dans le sud de la France.
Ouais.
Son appareil, donc le volo scooter, enfin le scooter, pardon, excusez-moi, c'est un monoplace. Donc pour le transport de personnes, c'est quand même pas très pratique.
Ouais.
Et c'est uniquement un véhicule loisir qui est pour l'instant prévu plutôt pour les États-Unis.
D'accord.
Puisque là-bas, il existe encore une nouvelle catégorie VULM qui permet de pour un appareil de moins de 115 kg. De ne nécessiter aucun permis.
D'accord, ok. Très bien. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces explications et puis on aura l'occasion de se reparler lors du premier décollage.
Avec grand plaisir, avec grand plaisir.
Merci et très bonne journée.
Merci.
Au revoir
à tous.